l'invitation. D'abord, j'aimerais remercier Madame Monica Sotto. C'était la raison pour laquelle je suis là. Mais initialement, elle m'avait invité parce qu'elle me disait, regarde, il va voir la semaine du Mexique. Il va voir des étudiants qui apprennent l'espagnol. Donc, tu pourras parler, faire ta présentation en espagnol. Alors, j'ai commencé à préparer des diapositives en espagnol. Et après, je me suis aperçu que ce n'était pas tout à fait ce qu'on avait accordé. Alors, je me suis communiqué avec Mme Michèle Rieu, à qui je remercie aussi son invitation. Et je lui ai demandé, mais la présentation sera en quoi? En espagnol? En français? Non, c'est en français ou en anglais, comme vous voulez. Alors, j'ai fait donc des diapositives et en français et en anglais. Et je me suis dit, et après, je vais les traduire. Et quand j'étais en train de les traduire, je me suis dit, bon, mais finalement, on n'a pas besoin de les traduire. Le fait de garder les diapositives dans trois langues, c'est ça, on lève les barrières de la langue, les barrières de la culture. Et en fait, c'est beaucoup plus ouvert. Je dois dire aussi que j'ai des attachements plus qu'émotionnels, mais même amoureux avec l'UQAM, parce que ma femme, elle enseigne ici. Donc, à la base, c'était elle la raison qui... Parce qu'elle m'a dit, écoute, apparemment, Monica est en train d'organiser une semaine du Mexique. Et bon, c'est pour ça que je suis là. Bon, il y avait dans un village au Mexique qui s'appelle Tomelopitos. Est-ce qu'il y a des Mexicains ici? Non, pas beaucoup. Un, deux. Bon. Il y avait deux monsieur dans le village de Tomelopitos au Mexique. Ils s'appelaient Juan. Tous les deux s'appelaient Juan. Juan Rodriguez. Mais l'un était un taxiste et l'autre était le curé du village. Alors, un jour, un bon jour ou un mauvais jour, Juan Rodriguez est mort. Alors, il va au ciel, chez Saint-Pierre. Et donc, Saint-Pierre le voit. Ok, mais tu dois faire la queue parce que, regarde, il y a tellement des âmes qui veulent nous joindre au ciel. Alors, il a fait la queue. Éventuellement, c'était à son tour, à Juan Rodriguez. C'est quoi ton nom? Lui demande Saint-Pierre. Juan Rodriguez. Bon. Ok, Juan Rodriguez, il cherche dans ses livres. Juan, ah, ok, tu es le curé. Non, 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 je suis le taxiste. Ah, ok. Oh, non, mais tu as bien fait. Alors, tu vas rester chez nous. Et là, il envoie quelqu'un pour le guider là où il va demeurer pour l'éternité. Et en marchant, je ne sais pas si au ciel on marche ou on vole, je ne sais pas. Ça, on ne m'a pas raconté. En marchant, Juan Rodriguez voit un château avec un grand gate. Et Juan demande à l'archange qui lui guidait et lui disait, écoute, mais qui habite dans ce château? Et alors l'archange, il a dit, ah, mais c'est là où tu vas habiter pour l'éternité. Oui, monsieur, c'est là où tu vas demeurer. Bon, il n'a pas posé des questions. Il s'est dit, s'il y a une erreur, je suis là, je prends possession de mon château. Quelques mois plus tard, qui meurt? L'autre Juan Rodriguez, le curé. Alors il va au ciel aussi. Il fait la queue. Et il arrive finalement chez Saint-Pierre. Et Saint-Pierre lui demande, c'est quoi ton nom? Juan Rodriguez. Juan Rodriguez. Ah, tu es le taxiste. Ah non, le taxiste de Diamant. Tu dois être le... Oui, le curé, oui. Ah, mais c'est bien. Écoute, quelqu'un va te guider là où tu vas demeurer pour l'éternité. Alors, il se fait guider. Il vole ou il marche. Et alors, il voit un petit cabanon. Tout petit. Mal entretenu en fait. Et Juan Rodriguez, le curé, demande à l'archange, c'est qui habite là? Et l'archange lui dit, attends. Ah, mais c'est là où tu vas habiter? Excusez-moi, mais c'est qui habite là au château? Ah, mais ça, c'est l'autre Juan Rodriguez, le taxiste. Non, je suis sûr qu'il doit avoir une erreur ici, parce que regarde, moi, il y a deux Juan Rodriguez. Là, c'est le taxiste, moi, c'est le curé. Non, c'est pas là où tu vas vivre, c'est là où le petit cabanon. Non, mais j'insiste, est-ce que je peux parler avec Saint-Pierre? Ils sont de retour pour parler avec Saint-Pierre. Et lui dit, écoute, c'est moi le curé. Et Saint-Pierre lui dit, regarde, d'après mes livres, lorsque tu faisais tes sermons à l'église, les gens s'endormaient. C'était si ennuyant, écouter tes sermons. Alors, il dormait la plupart du temps. Alors que Juan Rodriguez, le taxiste, quand il conduisait ses passagers, là, il se mettait à prier. Et c'est ça ce qui compte chez nous, il disait. Chez nous, ça compte résultat. C'est ça le moteur de notre économie. Même ici au ciel, on doit surveiller les résultats. Pourquoi je dis ça? Ça fait... Je suis mexicain d'origine. J'ai quitté le Mexique il y a longtemps. Mais je vais souvent au Mexique, au moins une fois par an, mais mes attachements restent toujours au Mexique. Mais depuis que je me rappelle, le Mexique a été une économie émergente. Quand est-ce qu'on va passer d'émergente à économie? Et qu'est-ce que ça prend pour passer d'une économie émergente à une économie industrialisée? Bon, on va voir ça. Alors, en pensant sur le sujet de quoi je vais parler, alors j'ai pensé effectivement parler du cri de la population du Mexique, le territoire, son PIB, le GDP, les accords commerciaux, combien de pétrole le Mexique produit, etc., les importations, exportations, etc., etc. Et alors, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça donne de voir les données statistiques? Parce que combien de conférences j'ai fait, j'ai présenté et j'ai participé. Et à la fin de la conférence, rien ne change. Et donc, là, je me suis posé la question. Je me suis dit, la Chine, dans les années 1950, qu'est-ce qui serait donné pour avoir le potentiel et les possibilités économiques que le Mexique avait à l'époque? Et aujourd'hui, c'est incomparable. La même chose pour l'Allemagne et le Japon en 1945. Qu'est-ce qui serait donné pour avoir les possibilités et le potentiel économique que le Mexique avait à l'époque? En fait, je me pose la question, qu'est-ce qu'il donnerait beaucoup de pays au monde aujourd'hui pour avoir les ressources naturelles que le Mexique a? Et pourtant, est-ce qu'on va démarrer un jour? Est-ce qu'on va changer d'émergent à pays industrialisé? Et ce n'est pas en regardant les données économiques qu'on va avancer, qu'on va sortir. Je n'y crois pas. Alors, je me posais la question, c'est quoi donc le decisive factor du développement économique? Est-ce que ce sont les accords commerciaux? Est-ce que ce sont les institutions? Est-ce que ce sont les politiques économiques monétaires qui vont faire démarrer le Mexique? Il me paraît qu'on est en train de chercher dans le mauvais endroit, là où on ne va pas trouver la réponse. J'ai aussi fait des petites données statistiques quand même pour nous donner une idée où le Mexique est placé. Si je peux voir, on a 11% de la population des États-Unis. Donc, en théorie, on devrait avoir 11% du PIB, le GDP des États-Unis, on ne l'a pas. Excusez-moi, si on regarde le Canada. Et donc, le Canada est 1% derrière les États-Unis au niveau de GDP per capita. Le facteur Gini, c'est très. Ça, c'est très. Signifiant. Le Gini, c'est la discrépance, l'écart entre le très riche et le très pauvre à l'intérieur de l'économie. Le plus grand est l'écart, plus long est le facteur Gini. 45, 32, donc ici au Canada, on est beaucoup mieux qu'aux États-Unis au niveau de la compétitivité. Ce qui est intéressant, si on divise la dette par le PIB, on est pire que les États-Unis, sauf que les États-Unis vont peut-être pas payer leur dette dans combien de jours, 6 jours, où on va voir. Et où est-ce qu'il est placé le Mexique par rapport à aux voisins du Nord? La population du Mexique est 38% de la population des États-Unis. Et donc, on devrait avoir en théorie 38% du PIB des États-Unis. On a le 8%, ce qui n'est pas surprenant. Le facteur Gini, qui heureusement, on n'est pas si loin du facteur Gini des États-Unis. Il y a un côté des États-Unis qu'on connaît beaucoup moins. Je pense pas seulement à Detroit, je pense au village de Iowa, Tennessee, South Dakota, North Dakota. Moi, j'ai eu la chance de traverser les États-Unis du Mexique au Canada à plusieurs reprises, et c'est intéressant de le faire. On estime qu'autour de 40% de la population aux États-Unis ont pas un passeport. Donc on leur dit que les États-Unis c'est the almighty country et ils le croient. Bon. Où est-ce qu'on est? Au niveau de la dette, curieusement, le Mexique est de loin, beaucoup mieux que et les États-Unis et le Canada et beaucoup d'autres pays industrialisés, mais ça c'est parce qu'ils sont forcés. C'est pas un mérite. Plus ou moins, où est-ce qu'il y a le Québec? Le Québec est 3% de la population des États-Unis, mais le GDP, le PIB, n'est pas 3%. Le GDP per capita, on est 32. Le facteur Gini n'est pas 40%, ou plutôt 40%, mieux que les États-Unis. Intéressant. La dette. Malheureusement, je voulais vous montrer notre dette au Québec. Savez-vous combien c'est la dette? La dette, vers la fin de cette présentation, va atteindre 260 milliards de dollars. Notre dette augmente 1 000 dollars tous les 4 secondes. Je voulais vous montrer ça, mais finalement, ça n'a pas marché. Alors, je vais me dépêcher pour vous montrer finalement ce que je voulais vous montrer. Parce que le sujet de ma conversation était, c'est quoi donc le facteur qui peut propulser la croissance économique? C'est donc, c'est quoi la clé pour une croissance économique, pour une équité économique, pour un bien-être social, pour une éducation pour tous? C'est ça la question. Et c'est curieux parce qu'à chaque fois qu'on voit, qu'on regarde le meilleur pays, le plus développé au monde, au niveau de corruption, au niveau de croissance économique, au niveau de PIB par habitant, etc., consistantement, c'est toujours la Norvège, la Suède, le Danemark, la Nouvelle-Zélande, etc., etc. Alors la question est, qu'est-ce qu'ils font que, et ça c'est, attendez, je vais vous montrer ça, non, pas ça, je vais passer tout ça, je vais vous laisser ces diapositives. Voilà, c'est là où je voulais arriver. Donc, c'est ça l'évolution. donc, à mon avis, au lieu de regarder ici, je voulais voir ici. Et peut-être ici, ça c'est le Aden. C'est pour ça que le titre de cette conversation, c'est le Aden du progrès économique. Et c'est quoi ça? Ça, c'est pas un ADN, c'est la cellule, mais pour moi, ça c'est la clé. L'intérêt de la collectivité passe par-dessus des intérêts individuels. C'est le facteur commun dans tous les cas. Le problème qu'on a ici au Québec et au Canada vient de là. Tous les problèmes viennent de là. C'est l'intérêt personnel. Par-dessus, way, way above the interest of the collectivity. Toujours, toujours, toujours. Quand on regarde une entreprise privée, qu'on regarde l'État, qu'on regarde n'importe quoi, c'est toujours l'intérêt privé, l'intérêt personnel. Et j'ai ici un modèle que je n'aurai pas le temps de vous montrer en détail. On peut stimuler ce que j'appelle activer le DNA of economic growth. C'est-à-dire, aujourd'hui, on parle de la commission Charbonneau. Savez-vous combien de commissions pareilles il y a eu au Québec depuis 1905? Il y a eu entre 10 à 15 commissions. Exactement pour la même raison. C'est-à-dire que dans quelques années, 3 ans, 5 ans, on va avoir une autre commission. Et rien ne va changer. Sauf si on s'adresse au niveau du DNA. Et voici un de mes héros, un petit monsieur qui ne mesurait pas grand-chose, mais qui est un géant. Il a dit justement, ça c'est la clé. Be the change you want to see. Je vais arrêter là. Mais encore une fois, je vous laisse. Ça, c'est le modèle que je voulais vous montrer. Mais je ne pouvais pas m'en passer de mon histoire avec Juan Rodriguez et tout le monde, donc j'ai dû distribuer le temps. Je vous remercie.